Et à Canalem, c'est l'heure du national. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seille pour vous présenter des papiers glanés à droite et à gauche dans les journaux francophones de notre grand pays qu'est le Canada. Aujourd'hui, il y sera question de la légende de Cataline, alors que le Franco-Alberta nous présente l'histoire des francophones de l'Ouest. Aujourd'hui, on parlera des figures légendaires de la mi-carême. On évoquera aussi des ouvrages émanant de toutes les francophonies. Et puis, de quoi parlerons-nous aussi? Des 100 ans de féminisme à Hearst, en Ontario, d'un lancement du livre sur la tradition orale de l'île du Prince-Édouard, Madame, le conte acadien. On parlera même de restes de légumes transformés en sauce piquante. Et on parlera aussi d'accent pour finir. Avouez que c'est varié, puis c'est sympa, on n'en parle pas tous les jours de tout ça. Alors, je commence tout de suite avec un bon vieux journal sur papier. Voilà, je vous le fais entendre. Et je l'ai dans la main. C'est le journal le Franco qui nous vient d'Alberta et où on nous présente à chaque semaine, je pense, ou à toutes les deux semaines peut-être. Tiens, ça, c'est un ordinateur qui couine. On nous présente l'histoire des francophones de l'Ouest. Ça s'appelle « À la portée de tous ». La maison de production francophone Red Letter Film, basée à Vancouver, vient de rendre public l'accès à l'un de ses documentaire historique « La légende de Cataline ». Avec ce genre de récit, c'est toute l'histoire des pionniers francophones qui est retracée pour le plus grand plaisir de ceux qui voudraient en savoir plus sur leurs ancêtres. L'histoire des francophones en Amérique passionne. J'ai été témoin de l'appétit des francophones en situation minoritaire pour ces histoires, rapporte Sylvie Pelletier, qui est présidente de la Société de production et ancienne présidente de l'Alliance des producteurs francophones du Canada, l'APFC. Les histoires franco-canadiennes de Red Letter Film seront publiées petit à petit sur la plateforme de YouTube. Ces films étaient dans notre librairie privée, pas accessibles au public. On s'est dit qu'on devrait les partager avec la communauté, explique Sylvie Pelletier. Ce genre de documentaire rend hommage aux pionniers francophones de l'Ouest. C'est un travail de visibilité, souligne Mme Pelletier. Elle-même ne connaissait pas nécessairement la place et la contribution de ces personnages. J'ai découvert l'histoire de beaucoup de francophones avec l'aide de l'historienne Jean Barman, indique-t-elle. Dans ses livres « The West, Beyond the West » et « French Canadians, Furs » et d'autres livres de ce style, l'auteur et historienne Jean Barman parle de l'influence des Canadiens français et de leur mélange avec les Autochtones au temps de la traite des fourrures. La première des histoires à être partagée par Red Letter Film est celle de Jean Cau, C-A-U-X, dit « Cataline, un muletier français, venu tenter sa chance dans la ruée vers l'or en Colombie-Britannique au milieu du 19e siècle. Le documentaire décrit son aventure dans l'Ouest en s'appuyant sur des photos d'archives et des reconstitutions dramatiques. À l'origine, la légende de Cataline a été conçue pour Radio-Canada et produite en 2002. Au-delà du parcours personnel de l'homme, c'est toute une série d'anecdotes sur d'autres francophones de l'Ouest qui s'entremêlent dans le récit. Le documentaire nous plonge dans l'univers de la ruée vers l'or, d'une Angleterre désireuse de protéger la Colombie-Britannique de l'influence américaine et de l'essor spectaculaire de Fort Victoria, qui passa de 1000 à 40 000 habitants en quelques mois. C'était des rêveurs, des aventuriers, commente Sylvie Pelletier. Les années 1850 marquent aussi une époque dramatique, celle des désillusions et de mouvements migratoires soudains. C'est une histoire dramatique, fascinante et dynamique, résume Sylvie Pelletier. C'est en 1858 qu'est fondée la province de la Colombie-Britannique avant de rejoindre la Confédération en 1871. En 1905, ce sera au tour de l'Alberta. On témoigne de tout un pan de l'histoire de l'Ouest, révèle la responsable. L'appétit des francophones de l'Ouest pour leurs ancêtres traduit une quête de leurs racines. Dans le fond, ça sert à bâtir l'identité, estime Sylvie Pelletier. Car vivre en situation minoritaire n'est pas toujours facile pour trouver ses repères identitaires. Ce n'est pas évident au début et avec le temps, on finit par se rendre compte que le discours dominant autour de nous n'a rien à voir avec la francophonie et sa contribution. Tout est là pour nous assimiler, juge la présidente de Red Letter Film. Ainsi, en découvrant l'histoire de ses prédécesseurs, on se rend compte qu'on n'est pas les premiers, qu'il y a toujours eu des francophones, et ça valide notre position, conclut-elle. Dans les mois à venir, un documentaire plus contemporain de la société Ouest, où l'on parle français, sera lui aussi accessible sur YouTube. Cette série de portraits de francophones établit un tour d'horizon de la pratique de la langue dans l'Ouest. Ça nous aide à trouver nos racines, à ne pas se sentir comme un intrus. Puis ce sera au tour de Franco Boom en Alberta, documentaire sur la ruée vers l'or noir, d'être diffusé en accès libre. On est allé dans la région de Rivière-la-Paix, on a rencontré les communautés de souche, des familles qui sont là de génération en génération, évoque Sylvie Pelletier. Alors, pour visionner les documentaires de Red Letter Film, il y a un rendez-vous sur la chaîne YouTube, mais alors avec un numéro immensément compliqué. Je vous recommande de faire sur votre Google, ou en tout cas, peu importe, votre moteur de recherche, d'écrire « Documentaire, la légende de Cataline ». Et je suis convaincue qu'on va vous amener automatiquement sur YouTube, sur ce site-là, parce que c'est vraiment le lien, là, on en a pour une heure, ça n'a pas de bon sens. Donc, la légende de Cataline, voilà, l'histoire des francophones de l'Ouest.
Je sens que le train au loin approche sous mes bottes. Le fer vibre comme le fait mon ventre lorsque je suis assise. La fumée noire me rappelle celle de ton cigare qui dansait vers le ciel étoilé du plafond de ma chambre.
Elle s'appelle Chantal Archambault et le titre de la chanson qu'elle interprétait, c'était Western chinois. Alors oui, nous sommes à Pâques, hein, c'est le vendredi, vendredi saint, mais je vous propose peut-être de revenir un tout petit peu en arrière pour qu'on se souvienne ensemble des figures légendaires de la mi-carême et de ceux qui poursuivent la tradition. C'est un papier que j'ai trouvé dans le courrier de la Nouvelle-Écosse. Qu'il s'agisse de courir la mi-carême au Québec, ou de faire du momming à Terre-Neuve, de célébrer le Mardi Gras avec les cousins Cajuns en Louisiane, ou de participer à d'autres carnavals semblables à travers le monde, il y a des constantes. Nourriture, boissons, musique, danse, rire et bien sûr masque. Dans de nombreuses régions, ces festivités servent également à promouvoir les aspects authentiques de la culture locale. Il est tout simplement phénoménal que cette ancienne tradition acadienne perdure à notre époque. Elle s'est transmise de génération en génération, un peu comme un flambeau qu'on allume au cœur de l'hiver. Beaucoup de figures légendaires de chez nous ont gardé cette tradition vivante et encouragé les gens à la perpétuer. C'est Rosie Aucoin-Grasse qui signe ce papier dans, je vous le disais, le courrier de la Nouvelle-Écosse. On ne peut penser à la mi-carême sans associer cette tradition à notre très cher ami, le regretté Gérard Romard de Saint-Joseph-du-Moine, dont le décès en 2007 a laissé notre communauté en état de choc. L'amour de Gérard pour cette vieille coutume remonte à sa petite enfance. Ses copains et lui attendaient avec impatience cette distraction annuelle, s'habillant et se rendant à pied jusqu'à Grand Étang pour visiter les plus populaires des maisons à mi-carême. Même après que Gérard ait eu quitté son village natal pour s'installer à Ottawa, Edmonton, Toronto ou ailleurs, il s'efforçait toujours de revenir à la maison pendant la mi-carême. « C'était plus fort que moi, disait-il. Le mois de mars approchait et je m'agitais. Je suis même allé jusqu'à quitter un emploi pour ne pas rater la mi-carême. » Gérard vivait pour ces jours où il pouvait rentrer au Cap-Breton et retrouver sa famille et ses amis. En 1979, son oncle Wilfred, à Arsène Aucoin, lui a proposé du travail et un logement. Gérard a sauté sur l'occasion pour rentrer chez lui. De cette manière, il pourrait participer à toutes les festivités de la mi-carême. Au fil des ans, Gérard a gardé cette tradition vivante et en a inspiré d'autres, surtout parmi les plus jeunes, à participer à la tradition et à ne jamais laisser mourir la mi-carême. Il est devenu l'animateur le plus en demande durant cette semaine festive depuis les cérémonies d'ouverture. Laissons entrer les mi-carèmes au centre acadien jusqu'à l'enterrement de la mi-carême à la toute fin. Il avait même l'habitude de louer un autobus ou un camion et de rassembler ses amis musiciens. Il se déguisait et se rendait dans les principales maisons des mi-carèmes de la région, ne manquant jamais de s'arrêter au foyer Père Fizet, au centre de Green Door et ailleurs. Gérard a touché tant de gens. Et on se souviendra toujours de lui pour son grand cœur, son sens de l'humour, sa joie de vivre et l'amour de ses racines et de ses traditions acadiennes. « Nous ne rajeunissons pas, disait-il. Je ne serai pas ici pour toujours. Cela me rendrait si heureux de voir la jeune génération apprendre toutes ces vieilles chansons que ma mère m'a enseignées, apprendre les traditions, les danses traditionnelles qui font partie de nos racines. J'espère surtout que la mi-carême et les autres traditions ne mourront jamais, qu'elles continueront à grandir et vivre pour toujours. Notre ami Gérard serait très fier de voir comment la région acadienne célèbre la mi-carême pendant toute une semaine avec encore plus d'activités. Joe Delaney de Saint-Joseph-du-Moine et autre grand amateur et promoteur légendaire de la mi-carême était connu pour son amour de la vie, son humour contagieux et son esprit communautaire. Bon vivant, il n'a jamais manqué de participer aux festivités locales comme la Chandeleur, la mi-carême, les mariages, les concerts donnés par l'école, entre autres. Toujours, il s'efforçait d'inculquer l'importance des vieilles traditions qu'il fallait garder vivantes et florissantes. Pendant la mi-carême, la maison de Joe était parmi les préférées des mi-carèmes et des observateurs. L'extérieur de sa maison était décoré de mannequins et de pancartes. Tout le monde était le bienvenu le jour comme la nuit. Eh bien, comme on le sait, la mi-carême signifie le milieu du carême. À cette époque, c'était strict. Le carême, c'était dur pendant 40 jours. Les gens devaient aller à l'église, souvent, et jeûner. Pas de sucrerie, de la viande une fois par semaine seulement, pas de fête et beaucoup de prières. Et Joe d'ajouter, « Alors laissez-moi vous dire que cette pause de 3 jours au milieu du carême, ça nous réjouissait. Nous avions tellement de plaisir à nous habiller avec de vieilles hardes et des masques, et bien sûr, on adorait les douceurs. On pouvait manger ce qu'on voulait, c'était incroyable. À l'époque, j'avais demandé à Joe où il trouvait des vêtements pour se déguiser. Il m'a répondu, eh bien, certains vêtements n'étaient que des guenilles. Si nous avions de la chance, nos parents, qui vivaient aux États-Unis, allaient acheter des vêtements dans des ventes de charité à Waltham et nous les envoyaient par la poste. Une partie des vêtements était réservée pour l'ami Carême. De nombreuses familles recevaient des barils de vêtements, donc c'était plaisant d'échanger des vêtements pour que nous en ayons assez pour les 3 jours. Évidemment, on ne pouvait pas aller dans une maison 2 fois avec le même déguisement, sans quoi ils auraient vite deviné qui on était. Les gens d'ici sont doués pour deviner. Je jure que certains sont meilleurs que des détectives. Il faut tout cacher. S'ils aperçoivent un bout d'oreille, tes yeux ou ton nez, oui, ils te reconnaissent, dit Joe Delaney. Ils te reconnaissaient. À cette époque, nous n'avions pas de magasin pour louer des costumes. On devait faire les nôtres, mais ça faisait partie du plaisir. Joe est décédé le 2 février 1966 à l'âge de 96, à l'âge de 79 ans. Ces dernières années, ses épouvantails ont également été enterrés. Bien que Joe manque à sa famille et à ses amis, son esprit survit à travers ses enfants et tous les souvenirs que nous avons de lui, comme il nous a fait rire et il a touché l'enfant en nous tous. Il n'est pas étonnant qu'il y ait un endroit spécial dédié à Joe Delaney au centre Mi-Carême à Grand Étang. C'est comme s'il veillait sur nous, sur tous les masques étonnants, le décor et ceux qui sont envoûtés par l'entourage dépeignant cette ancienne coutume acadienne.
Que je sois né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser, écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur. Quelques décades, je ne supporte pas de voir le temps passer. On arpente sa vie au pas de promenade et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude, ce que je vais vous dire, vous le comprendrez. En mettant bout à bout toutes nos solitudes, on pourrait se sentir un peu moins effrayé, un peu moins effrayé. Pas mourir, écrire tendresse ou plaisir, écrire pour tenter de dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli, écrire pour tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture un jour s'achève. Qu'on m'écoute en passant d'une oreille distraite ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler. Je voudrais que ces mots qui me sont une fête, on ne se dépêche pas d'aller les oublier. Que vous soyez critique ou plein de bienveillance, je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît. Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense. Je veux me regarder sans honte et sans regret, sans honte et sans regret. Pas mourir, écrire grimace et sourire, écrire et ne pas me dédire, dire ce que je n'ai su faire, dire pour ne pas me défaire, écrire à piller ma colère, écrire pour être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire et ne pas vivre triste et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. Et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. Écrire pour ne pas mourir, pour ne pas mourir.
Ça, c'est une splendide chanson signée Anne Sylvestre, écrire pour ne pas mourir, pardon, qui nous amène vers un papier que j'ai trouvé dans l'Express.ca, un journal francophone qui nous vient de l'Ontario. Et c'est un article qui s'appelle « Feuilletage d'ouvrages de toutes les francophonies ». La francophonie est une tête de Janus, à la fois composée d'un sentiment de révolte et d'amour. Cette phrase est de Zachary Richard et souligne habilement la diversité de la langue française et pourrait résumer l'émission radiophonique littéraire 4e de couverture du samedi 24 mars. Après une ode à la nature en février, l'émission créée par l'écriture en mouvement, diffusée exceptionnellement du Collège Boréal à l'occasion de la journée familiale de la semaine de la francophonie, était consacrée aux tribulations de la langue française du XVIIe siècle à nos jours. De l'Afrique au Canada, en passant par la Louisiane, les invités d'Anne Forrest Wilson ont offert un tour d'horizon de la littérature francophone. La diversité et la richesse de la langue française sont au cœur des conversations. Il y a des langues françaises, lance Aurélie Lacassagne, professeure de sciences politiques à l'Université Laurentienne. Pour le doctorant en littérature et cinéma africain Elvis Nwemsi, également chroniqueur culturel à Radio-Canada, le français normal, le parisien, va évoluer, se métisser, se tropicaliser. Le français n'est pas une langue fixe, et selon son ancrage géographique, il va se réinventer. Elvis Nwemsi nous parle par exemple du camfranglais, un parler populaire utilisé par les jeunes Camerounais pour ne pas se faire comprendre de leurs parents. L'émission littéraire a posé ses valises dans les locaux du Collège Boréal à l'occasion de la Semaine de la francophonie. Tropicaliser le français est un défi identitaire. Affirmer son français dans la littérature, c'est négocier son identité africaine. Pour Elvis Nwemsi, il est très important de récupérer le français à sa façon sur le continent africain. La littérature est une aubaine pour un manifeste culturel. Aurélie Lacassagne souligne la difficulté de parler les deux langues officielles du Grand Sudbury, le français et l'anglais. Il y a cette idée qu'on parle les deux langues, mais qu'on n'est personne. Les Sudburois souffrent d'invisibilité, selon elle. La langue que nous parlons figure sur notre carte d'identité culturelle. Elle va nous donner une place dans la société et nous définir intrinsèquement. Pour Denis Desgagnés, directeur du Centre de la francophonie des Amériques, une multitude de petits Canadas déconnectés les uns des autres se sont créés en Amérique du Nord. Il faut bâtir des liens entre eux pour que cet archipel de langues développe des racines en réseau. Zachary Richard, l'auteur-compositeur-chanteur louisianais qui se produisait le soir même à l'Alliance française, a évoqué le « no man's land » culturel acadien. Ses grands-parents sont de la dernière génération francophone de Louisiane. Ainsi, Zachary s'est construit avec un français offensif à la maison et un anglais obligatoire à l'école. La Louisiane est un cas sociolinguistique intéressant. La langue française a disparu avec la guerre de sécession et depuis, un véritable combat est mené contre l'assimilation à l'anglais et pour la reconnaissance de la langue française. C'est grâce à la musique dans les années 1960 que le français est revenu petit à petit en Louisiane. Le mythe de l'Acadien errant s'estompe et les jeunes Cadiens apprennent à lire et à écrire en français avec une grande fierté aujourd'hui, selon Zachary Richard.
C'est une barmaid qu'est ma darling, mais in the bed, c'est mon travelling, mon best-seller et mon planning, c'est mon starter After shaving, je suis son parking, son one man show, son fuel, son king, son slip au chaud, rien qu'un petit flash. Au 5 o'clock, je pète toujours cash dans le bon Dieu scope et je cause français. C'est un plaisir. C'est ma starlette, ma very good, mon pic galette, mon Hollywood. C'est ma baby au petit fortou, c'est ma lady oh, and toutou. Je suis son jockey, son steeple chaise, c'est la driver à la française. Dans le sleeping car, after paillasse, à son milk bar, je me tape un glace et je cause français. C'est un plaisir. C'est ma call girl, ma savourex, qui efface sa gueule à coup de Kleenex. C'est ma Lucky, c'est ma Palmal, ma camel qui fait ça pas mal. Quand c'est ok, on fait le remake. Quand c'est loupé, on fait avec. J'lui fais le mohair et la syntaxe. Très rock in chair, je shoot relax. Et j'cause français. C'est un plaisir. C'est une barmaid qu'est ma darling. Mais in the bed, c'est du forcing, c'est du pam-pam à chaque coup de gong. C'est plus une femme, c'est un ping-pong. Quand je suis out, elle me sex appeal. Et dans le blackout, je smash facile sur son standing in extremis. Je fais du pressing au self-service et je cause français. C'est un plaisir. C'est mon amour, mon coquelicot, mon petit bonjour, mon petit oiseau. And je speak French. C'est un plaisir.
Eh oui, hein? La langue française n'est pas morte, c'est certain. Alors mes amis, c'est Clotilde Seille, c'est évidemment Léo Ferré que nous écoutions avec la langue française et c'est là-dessus que se referme la première partie de l'émission Le National. Restez des nôtres. En seconde partie, il sera question de féminisme, il sera question d'une tradition orale, le conte acadien et un éditorial qui s'appelle « T'aimes pas mon accent ?» À plus tard. Le National, seconde partie. Tiens, on y va avec Agnès Bill.
L'enfant dormira bientôt. Dors mon poussin, dors mon bébé, ma petite fleur, ma petite fée. Déjà une dent, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'il fout le marchand de sable? Allez, demain, faut être en forme. Maman travaille, elle se défonce. Tu sais, la nuit, y en a qui dorment. Fais comme papa, regarde, il ronfle. Dodo, l'enfant d'eau, on joue à dormir tout de suite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Maman est là, faut pas pleurer. Faut être un bébé bien élevé qui dort quand maman a sommeil et qui me casse pas les oreilles. Tu sais, la nuit, c'est pas prudent. Faut faire dodo, faut faire risette. C'est ce que font tous les enfants qui veulent pas passer par la fenêtre. Dodo, l'enfant d'eau, sinon je te déshérite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Allez, allez ma puce, allez mon ange. C'est la troisième fois que je te change. Pitié pour une mère débutante. Mais tu tiens de qui pour être si chiante? Non, non, maman, s'énerve pas. Mais tu me prends le sein ou bien la tête? Moi, à ton âge, j'étais sympa. Tu sais ce qu'elle dit, la mère parfaite. Dodo, l'enfant d'eau, espèce d'antiféministe. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. J'ai dit bientôt, alors maintenant, il faut pas faire mentir maman. C'est pas du tout pédagogique. Tu dors ou bien j'appelle les flics? C'est misérable, je sais plus quoi faire. Je vais tout de même pas te mettre en prison. Ou pire encore, avec ton père, sur le canapé du salon. Dodo, l'enfant d'eau, relation mère-fille perfide. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. J'ai dit dodo, l'enfant d'eau, crise de nerfs, maman limite. L'enfant dormira bien. Elle dort. Mon ange. C'est mon portrait.
Agnès Bill, je l'adore, avec la complainte de la mère parfaite et ce bébé et cette maman antiféministe. Ça nous amène forcément sur le premier sujet que j'ai trouvé pour vous dans le journal La Voix du Nord, journal francophone qui nous vient de l'Ontario également. Et ça s'appelle « 100 ans de féminisme à Hearst ». Et c'est Andréanne Joly qui signe ce papier. Daniel Coulombe est professeur d'histoire à l'Université de Hearst et responsable du centre d'archives de la Grande de zone argileuse. Elle s'intéresse au rôle des religieuses dans la colonisation de Hearst et au développement du Nord, mais aussi au groupe de femmes engagées dans la vie communautaire. Il faut dire qu'il y a un peu d'elle-même là-dedans. Dans les années 70, elle a côtoyé les religieuses dans sa communauté et est devenue une jeune universitaire qui embrasse pleinement le mouvement féministe. Les mouvements féminins ont toujours été bien actifs dans la province, dans le Nord et à Hearst. Bien avant la naissance de l'Union culturelle des Franco-Ontariennes, l'UCFO, et des filles d'Isabelle, existait la Fédération des femmes canadiennes françaises, le Cercle Notre-Dame, les femmes chrétiennes et les congrégations religieuses, aujourd'hui presque disparues du Nord ontarien. La professeure de l'Université de Hearst, Danielle Coulombe, peut témoigner de la contribution des religieuses à la vie communautaire de Hearst. L'historienne a consacré une thèse au rôle des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours à Hearst de 1917 à 1942, et elle s'est aussi intéressée aux sœurs de l'Assomption à partir de 1942. Pour elle, ces femmes ont été de premiers modèles pour les groupes de femmes qui allaient être très actifs dans la communauté forestière de Hearst, comme ailleurs dans le Nord ontarien. La responsable du centre d'archives de la Grande Zone argileuse brosse le portrait de leur arrivée en 1917. Hearst est un pays de colonisation, les familles sont peu nombreuses et comptent souvent beaucoup d'enfants, et les femmes concentrent leurs activités autour de la maisonnée. Comme il existe peu de services à Hearst, les religieuses sont en fait plus au service de leur communauté qu'au service de Dieu, laisse entendre Daniel, on va l'appeler Daniel. Danielle Coulombe. Elles veillaient à l'enseignement, à la gestion de l'orphelinat, mais elles organisaient aussi les différentes activités sociales et en accueillaient certaines dans leur couvent. Ce triple exercice, Dieu, la communauté et l'instruction, c'est exigeant. Mais les religieuses ont deux atouts. Elles sont instruites et entourées d'enfants qui peuvent aider. Elles n'ont pas les responsabilités familiales des mères, rappelle l'historienne. En 1942, les Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours étant la seule communauté de la congrégation hors Québec, elles sont appelées à enseigner l'anglais au Québec. Les Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge, actives partout dans le nord de l'Ontario, reprennent alors le flambeau à Hearst, mais resserreront leurs activités autour de l'enseignement chez les plus jeunes. Il faut dire que le contexte communautaire a bien changé depuis l'arrivée des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours. J'ai perdu ma ligne, mes pauvres amis. Je vous relis la phrase plutôt. Il faut dire que le contexte communautaire a bien changé depuis l'arrivée des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours. D'autres groupes communautaires ont commencé à apparaître. Les Sœurs de l'Assomption gèrent l'Académie Saint-Joseph, qui demeurera l'établissement privé d'éducation secondaire française des filles de Hearst jusqu'en 1968, lorsque les écoles secondaires de langue française sont créées par la province. Pendant cette période, divers groupes sont actifs dans la communauté. La Fédération des femmes canadiennes françaises, l'Union catholique des fermières, devenue l'UFCO en 69, les filles d'Isabelle, le Cercle Notre-Dame et les femmes chrétiennes. Jamais ces femmes-là ne se seraient identifiées comme féministes, précise Madame Coulombe. Elles étaient de leur époque et très engagées dans leur communauté. Des groupes féministes naîtront à Hearst dans les années 70 ou 80 et Danielle Coulombe, alors étudiante à l'université de Hearst, compte parmi les militantes, bien sûr. À cette période, les femmes sont en train de rentrer sur le marché du travail dans notre région, met-elle en contexte. En 1977, Franco-Femmes naît à Hearst et à Kapuskasing dans l'objectif de promouvoir l'amélioration de tous les aspects de la vie des femmes du nord de l'Ontario et participe à la naissance de la Maison Verte en 1981. Clé en main suivra en 1984 pour cesser ses activités en 2007. Franco-Femmes organisait une conférence annuelle qu'on appelait « Au féminin » pendant 7 ou 8 ans, explique la professeure d'histoire. Pendant une rencontre, il y a eu un atelier sur les besoins économiques des femmes. C'est là qu'est née toute l'idée de créer une entreprise qui s'occuperait d'offrir du travail aux femmes. La Maison Verte, une entreprise sociale qui existe encore et qui vend des semis de reboisement et de tomates dans la région. Clé en main aussi faisait la promotion de l'indépendance économique des femmes. Plus tard, cet organisme offrira des bourses à celles qui poursuivent des études dans des secteurs non traditionnels. Ça a l'air moins pertinent maintenant, il y a encore beaucoup de plafonds de verre à faire éclater, mais les filles sont dans beaucoup plus de secteurs. Dans certaines provinces, elles sont majoritaires en médecine, remarque Danielle Coulombe. Alors aujourd'hui, la place des femmes. Danielle Coulombe reconnaît un essoufflement dans les groupes féministes autrefois très actifs. L'historienne hésite à expliquer un phénomène relativement récent. Elle préfère avancer quelques hypothèses. Parmi elles, pendant un certain temps, certaines femmes croyaient que tout était gagné. D'une autre part, elle a des récits qui peuvent frapper l'imaginaire. Je me souviens d'avoir fait une entrevue avec une dame qui travaillait à l'extérieur tout en élevant ses enfants. C'est ce qu'on voyait très peu dans notre région dans les années 50 et 60. Elle avait 3 semaines de vacances par année. Elle prenait des vacances en fonction de sa date d'accouchement. Après ses vacances, elle retournait au travail, sinon elle perdait son emploi. C'était comme ça jusque dans les années 70. Au fil des décennies, les plus jeunes générations ont oublié les luttes qui ont dû être menées pour se rapprocher d'une certaine parité, estime-t-elle. Mais dans les derniers mois, les manchettes rappellent que cette égalité des sexes est loin d'être atteinte. On est très consciente avec tout ce qui se passe en ce moment, que beaucoup de choses restent à faire, conclut-elle.
Marjolaine, cette nuit la lune est cachée dans l'ombre faut s'endormir. Je t'attendrai, ma jolie, long du bayou après minuit. Marjolaine, j'ai ta vie dans la mienne avant que le jour ne vienne. Faut se sauver, Marjolaine. Faut se sauver, ma jolie. Loin d'ici, oubliez les jours. Sans retour et sans regret, je te donnerai ce que je t'aime promis. Loin d'ici, un abri pour notre amour. Sans regret, sans retour, faut se sauver mal. Se sauver ma jolie Marjolaine. Je sens la tempête se lever, le vent crie dans le chenier, il me pardonnera jamais. Faut se sauver, ma jolie. Loin d'ici, oubliez les jours mauvais, sans retour et sans regret. Je te donnerai ce que je t'aime promis. Loin d'ici, un abri pour notre amour, sans regret, sans retour. Faut se sauver, Marjolaine. Faut se sauver, Marjolaine.
Zachary Richard, qui nous amène vers le lancement d'un livre, La tradition orale de mon île, Madame, le conte acadien, de l'auteur Gabriel Leblanc. Robert Fougère nous raconte dans le courrier de la Nouvelle-Écosse ceci. À Petit de Gras, c'est le dimanche après-midi, c'était le 4 mars dernier, qu'une quarantaine de personnes se sont rassemblées à la Picasse pour le lancement du deuxième livre de Gabriel Leblanc, La tradition orale de mon île, Madame, le conte acadien. Il s'agit du deuxième livre de cet enseignant à la retraite, qui est un raconteur aussi et auteur, Gabriel Leblanc. Avant et après la présentation du livre, l'auteur Gabriel Leblanc a autographié nombre d'exemplaires de ce bouquin qui parle de la région de l'île Madame, c'est-à-dire d'Acadiens assez bien connus, des gens d'un certain âge de cette région. Ce livre permettra également aux plus jeunes et aux gens de l'extérieur de faire la connaissance de raconteurs pure laine et d'apprécier davantage ce don et talent que possédaient ces maîtres conteurs. Monsieur Leblanc dit avoir écrit ce livre pour que la tradition orale du peuple acadien ne soit jamais oubliée. Lors de sa présentation, Gabriel Leblanc a raconté plusieurs histoires et contes qu'il tient de son enfance et qui lui ont été transmis par son grand-père, Jimmy Bob, et à son oncle, le petit Silver. Il a appris à raconter assis au pied de vrais raconteurs. Si les enfants et les petits-enfants de Gabriel Leblanc le suivent dans cette même ligne, la tradition orale n'est pas à la veille de s'éteindre dans la région de l'île Madame. Les gens ont donc ri de bon cœur en écoutant des contes d'antan racontés à la façon des trois raconteurs du passé. Dans son livre, Gabriel Leblanc raconte ou traduit les contes et les histoires des maîtres raconteurs. Gabriel Leblanc dit avoir voulu rendre hommage à ces trois maîtres raconteurs de l'île Madame. Ces trois personnes étaient des gens peu écolés, pour emprunter une expression courante de la région et utilisée par l'auteur l'auteur dans sa présentation. Ils avaient peu de formation formelle, mais ils avaient de grandes capacités intellectuelles, du savoir-faire aussi, et certainement un savoir-dire incomparable. Il s'agit de Jacques-Désiré Leblanc, mieux connu comme Jimmy Bob, de Sylvestre Boudreau, connu comme le petit Silver, et Joseph Sanson, encore mieux connu comme Joseph Adani. Comme le dit le titre du livre, à l'époque, le conte, c'était la tradition orale. Les Acadiens utilisaient le conte pour transmettre la culture et la langue. Pour ce qui est de la langue parlée en région, c'était bien cela, une langue parlée que l'on retrouvait très rarement à l'écrit. Il y a certainement un écart entre ce qui se disait et ce que l'on retrouvait à l'écrit. Ce dernier livre de Gabriel Leblanc est une œuvre qui souligne bien ce fait et qui pourrait déclencher toute une discussion sur l'importance d'écrire dans la langue du peuple. Le lecteur aura intérêt à se rappeler ce fait important lors de sa lecture. Jeannine Lacroix, directrice de la PICAS, a dû interrompre la période des signatures à 13h30 afin de présenter André Leblanc, fils de Gabriel, qui lui a présenté son père. Lors de son discours, il y a eu une lettre de félicitations des éditions de la Francophonie. Gabriel en a ensuite profité pour raconter quelques histoires-contes qui occupent toute la place dans ce nouveau livre. Madame Lacroix a remercié l'auteur d'avoir choisi de faire son lancement dans le cadre des rendez-vous de la Francophonie et elle a invité les gens à venir, nombreux, à participer aux activités planifiées dans le cadre des 2 semaines des rendez-vous. Pour sa part, l'auteur Gabriel Leblanc a remercié ses collaborateurs dans ce projet et Premium Seafoods, qui a parrainé le projet. Alors, pour obtenir une copie du livre pour les gens de la région en Nouvelle-Écosse, il suffit de s'adresser à l'auteur lui-même, à la PICAS, à la Goélette APP ou encore au marché du poisson à Arisha. Tiens, on va rester en Acadie, dans la revue, dans le journal acadienouvelle.com, où on nous parle de restes de légumes transformés en sauce piquante. La coopérative Ferme Terre Partagée de Rogerville grandit. De plus en plus de gens achètent ces paniers de nourriture locale. Alors, à la fin de la saison, il reste cependant toujours des fruits et des légumes qui n'ont pas été vendus. Il fallait trouver quoi en faire. On a souvent des surplus de légumes en fin de saison. On veut vivre de l'agriculture. Donc, pour en vivre toute l'année, c'est bien beau de produire plus, mais il faut aussi se diversifier pour avoir des produits à vendre l'hiver, au printemps et à l'automne, a expliqué Kevin Arsenault. L'idée d'une sauce piquante saisonnière a donc germé et a vu le jour. Le concept est simple. Plutôt que de donner ces bons fruits et légumes aux animaux ou de simplement les composter, ils sont utilisés pour créer un nouveau produit. De cette façon, la ferme réussit à se diversifier. On a valorisé ces produits pour en faire un produit transformé. C'est un processus de souveraineté alimentaire, a indiqué Pierre-Olivier Brassard, originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le seul ingrédient que font pousser les fermiers expressément pour la sauce, c'est le piment fort. La recette changera donc chaque année selon le stock de légumes disponible. Cette année, les ingrédients incluent des tomates, des tomatilles, des carottes, de l'ail et des oignons. Ce sont des produits qui viennent de la ferme. Il y a aussi des fraises. On a créé la recette autour de ces ingrédients-là. L'année prochaine, il pourrait y avoir un surplus de betteraves ou de courges. Le goût et la recette pourraient changer en raison de ça, précise M. Arsenault. La sauce produite en grande, en quantité limitée, parce que non, donc elle n'est pas en grande quantité, elle est en quantité limitée, il n'y a que 1100 bouteilles, est une sauce piquante mais sans l'être excessivement. Le goût est à la fois sucré et épicé. Elle est très accessible, c'est une bonne sauce à déjeuner, elle n'est pas trop piquante. La chaleur arrive très rapidement en bouche mais tombe très rapidement aussi en raison de la fraise, explique le fermier. Et en plus des ingrédients de la ferme, la sauce contient du vinaigre de cidre de pomme qui vient de la fleur du pommier de Memram Cook, de la vodka Grande Bagosse de la distillerie Fils du Roi et du sirop d'érable de Louise et Maurice Lebel de Rogersville. Voyez-vous, c'est vraiment un produit local dans toute sa splendeur. Le seul produit qui n'est pas local dans la sauce, c'est le jus de lime que nous avons ajouté pour donner un goût un petit peu plus acidulé, parce qu'on voulait créer une sauce d'inspiration mexicaine, a ajouté M. Brassard. Alors, si tous les ingrédients, ou presque, sont du Nouveau-Brunswick, le produit est transformé et embouteillé au Saguenay en collaboration avec Embouteillage JSG. La sauce piquante est disponible dans les marchés des fermiers auxquels la Ferme Terre Partagée est présente ou en ligne sur son site web.
Ton nom, ton nom, ton nom.
main me pèle de la gorge jusqu'au haut. Oh la douce culotte de ton corps, oh le doux glissement sans fin.
Chloé Sainte-Marie sur les ondes de Canal M. L'émission Le National tire à sa fin. J'avais envie de vous faire part d'un éditorial, pourquoi pas. L'éditorial d'un homme qui s'appelle Bernard Bockel et qui écrit dans laliberté.ca. C'est un journal francophone, bien sûr, qui nous vient de l'Ontario. Et Bernard Bockel intitule son éditorial cette semaine « T'aimes pas mon accent ?» Et voici ce que ça donne. Dans un pays comme le Canada, écrit M. Bockel, qui s'étend d'un océan à l'autre, non pas M. Bockel mais le Canada, où un habitant de sur cinq n'est pas né sur son immense sol, la question de l'accent est un incontournable de l'existence. Dans l'état actuel des mentalités, tôt ou tard, notre accent va nous servir ou nous trahir. Comme tout mot venant du latin qui a fait son entrée voilà longtemps, au XIIIe siècle, dans la langue française, ces différences acceptions ne manquent pas. Dans le titre de cet éditorial, l'utilisation du mot « accent » doit être comprise comme, dit le petit Robert, l'ensemble des caractères phonétiques distinctifs d'une communauté linguistique considérée comme un écart par rapport à la norme dans une langue donnée. Ça, c'est la définition du mot « accent ». Je vous la relis parce que ce n'est pas simple. C'est l'ensemble des caractères phonétiques distinctifs d'une communauté linguistique considérée comme un écart par rapport à la norme dans une langue donnée. Alors débattre l'accent exige donc de s'interroger sur la notion de norme. En l'occurrence, ne pas perdre de vue que nous trouvons les choses normales par rapport à nous-mêmes. Critiquer un accent, c'est donc avoir la prétention d'ériger le sien en référence et de s'arroger l'autorité de décerner les brevets d'authenticité. C'est se faire nombril pour décider qui est anormal, décrit M. Bockel. Un minimum de réflexion suffit pour reconnaître qu'il n'y a aucun lien entre la façon dont on prononce les mots et le niveau de flexibilité de langue dont on est capable. Comme d'ailleurs, il n'existe aucune corrélation entre l'intelligence d'une personne et le nombre de fautes d'orthographe ou de grammaire qu'elle va commettre. Pour s'en tenir au relativement petit monde du Manitoba français, tantôt je vous ai dit l'Ontario, j'avais tort, ça vient du Manitoba, où depuis toujours les gens proviennent de différents horizons et aujourd'hui plus que jamais, il faut une fois pour toutes refuser que l'accent devienne un enjeu de pouvoir. Il faut rejeter l'idée subconsciente qu'il y a une norme unique, une manière juste de parler qui fait de son locuteur un meilleur francophone. Au Manitoba français, tout accent doit être compris comme un signe d'ouverture aux autres, un signe de solidarité humaine et non un motif de suspicion ou de rejet. Pour l'exprimer d'une manière apparemment paradoxale, l'accent doit se vivre comme une volonté d'enracinement linguistique, comme une preuve de résistance à l'unilinguisme. Un Français de France, par exemple, qui va trouver que la jeunesse d'ici a un accent anglais, ferait bien de méditer la volonté de ces jeunes de ne pas se contenter de l'anglais. Cette personne ferait bien aussi de s'écouter parler anglais et de se rappeler que beaucoup d'anglophones vont la trouver cute quand elle s'exprime dans la langue qu'à peu près tout le monde parle, au Manitoba. À partir du moment où un accent est tout simplement un signal pour découvrir un autre que soi, s'ouvre en grand la porte pour apprécier, voire aimer, tous les accents dans toutes les langues que l'on a le bonheur de connaître. Alors sachons saluer notre formidable chance qu'au Manitoba français, il est parfaitement normal que tout le monde ait un accent, puisque nous sommes tous uniques. Voilà ces paroles de sagesse qui sortent de la plume de cet homme, M. Bockel, de la revue du journal francophone laliberté.ca, qui nous vient du Manitoba. Ainsi se referme le National sur Canal M pour cette semaine. Merci Mathieu Tessier, c'était Clotilde Seille qui vous souhaite de bien beaux jours à venir. Salut!